En 1991, dans le très moite et très intérieur cuir Osée Joséphine, Alain Bachung chantait avec langueur ce qu'il se passait à l'arrière des berlines. Quitte à casser l'ambiance, il faut noter que le reste du répertoire de la chanson française s'est assez peu penché sur ce qu'il se passait à l'arrière des Renault dans les années 80 sur la route des vacances. Heureusement, Internet n'oublie jamais. Il y a quelques semaines, des internautes ont remis la main et publié sur Instagram un dépliant publicitaire qui date de la fin des années 70 et qui vantait les mérites des accessoires de voitures pour familles nombreuses. On y trouve par exemple un matelas gonflable à poser sur le plancher de la voiture pour faire faire la sieste au petit dernier pendant que les parents enchaîne les gitanes, fenêtres fermées. Il était vendu également une barre à caler entre les deux appuis-têtes des sièges avant pour que l'enfant puisse tailler le bout de gras avec papa et maman debout et sans ceinture. 79 francs, le risque de se faire décapiter au moindre coup de frein. Dans le débat de midi, on ne veut pas se demander comment les personnes ayant grandi dans les années 80 ont survécu à des normes de sécurité assez peu contraignantes, mais comment les habitudes des automobilistes ont évolué à l'aune des défis écologiques et sanitaires. On a tous une expérience intime de la voiture comme conducteur, à l'arrière ou à la place du mort. Quelle joyeuse expression! De quoi la voiture est-elle le symbole? Est-elle, comme le décrivait Roland Barthes, un objet magique ou un engin de mort qui asphyxie? La question nous concerne tous, même ceux qui, comme moi, n'ont pas le permis, se déplacent sur un vélo avec la grâce du notary et qui ont le vertige sur une trottinette. Faut-il mettre la voiture à la casse? On attend vos questions, vos réactions sur France Inter à la page Le Débat de Midi et sur Twitter. On passe la seconde jusqu'à 13h.
Le Débat du Midi. Nadia Dam sur France Inter.
Et pour en débattre, sont aujourd'hui présents en direct avec moi Olivier Schneider. Bonjour.
Bonjour.
Bienvenue, vous êtes le président de la FUB, c'est la Fédération des usagers de la bicyclette, parce qu'on peut dire bicyclette aussi, pas que vélo.
Oui, c'est pour différencier avec l'usage sportif. Donc bicyclette, ça a plus une connotation déplacement quotidien.
C'est pas qu'un loisir, le vélo.
Tout à fait.
On y reviendra. J'accueille également Olivier Archambault, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue, vous êtes géographe, professeur à Paris 8. Et je précise que vous présidez également une association dont le nom fait rêver, enfin en tout cas moi ça me fait rêver, la Société des Explorateurs Français. À vos côtés, Mathieu Chassinier, bonjour.
Bonjour.
Ça va être un peu long, ingénieur mobilité au sein de l'ADEME, qui est l'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Énergie. Et vous êtes spécialement chargé des thématiques mobilité et qualité de l'air dans les Hauts-de-France et très très actif sur Twitter, on peut le dire.
Tout à fait.
Nous a rejoint en duplex depuis les studios de France Bleu Alsace à Strasbourg, Didier Bollecard, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes président de l'ACA, Automobile Club Association. C'est ça?
Oui.
Première question pour vous. Je parlais en préambule d'un rapport intime à la voiture. Est-ce qu'il y a un fétichisme de la voiture, un attachement particulier à l'objet? Que vous disent les adhérents?
Bon, il est certain qu'avant tout, la voiture est un outil. Il y a une catégorie d'utilisateurs pour laquelle elle était un symbole de réussite sociale. Elle était une passion, le sport automobile, mais dans l'ensemble, aujourd'hui, il y a une évolution très nette vers l'outil de déplacement.
Olivier Archambault, sans mauvais jeu de mots, quelle valeur véhicule la voiture? Ça touche à l'intime, ce que j'évoquais à l'instant. On est dans la sphère de l'intime quand on parle de la voiture?
On peut être dans la sphère de l'intime, mais il ne faut pas tout mélanger. C'est-à-dire que l'automobile, c'est d'abord le symbole d'une valeur fondamentale pour l'homme, celle de pouvoir se déplacer en toute liberté. Et ça, quoi qu'on en dise, quoi qu'on fasse, que ça s'appelle voiture, vélo, cheval ou depuis la nuit des temps, l'homme doit pouvoir se déplacer. C'est un synonyme de liberté absolue.
De liberté
point
individuelle.
Et de liberté individuelle. On en parlera certainement, c'est aussi une question d'idéologie.
Les foyers français sont 86% à posséder au moins une voiture et c'est un taux qui culmine à 95% dans les zones rurales. C'est encore un signe extérieur de richesse, comme ça a pu l'être dans le passé, de posséder une voire deux voitures.
Alors peut-être c'est encore un signe extérieur de richesse, mais c'est surtout et avant tout le meilleur moyen et le seul parfois de se déplacer véritablement pour aller simplement au travail. Que ça devienne un symbole après une vision de l'autre à travers le produit automobile, c'est autre chose. Mais c'est d'abord quelque chose de fondamentalement objectif, en sens où on roule sur la route pour aller quelque part d'un point A à un point B.
Mathieu Chassinier, ça a changé la symbolique de la voiture dans les sociétés actuelles par rapport à... Je parlais des années 70 tout à l'heure, mais...
Alors oui, ça a changé, on voit qu'il y a un glissement. Alors, dans les années 70-80, c'était plutôt un symbole de richesse, effectivement. Ça, je pense qu'on l'a plus trop aujourd'hui, en tout cas c'est ce que disent les sociologues, ce n'est plus trop un symbole de richesse. Mais par contre, c'est encore un symbole de quelque chose. Et on le voit dans le glissement de la publicité automobile, par exemple, où, alors c'est vrai qu'à l'époque, c'était un signe de richesse, c'est-à-dire affirmer un petit peu votre statut social avec votre voiture. Aujourd'hui, on n'a plus trop cet argument-là, qui est peut-être devenu un peu presque ringard. Mais par contre, on voit que les constructeurs automobiles, aujourd'hui, communiquent beaucoup sur affirmez-vous, affirmez votre personnalité, sortez des sentiers battus et achetez ma voiture. Et souvent, cet argumentaire-là, c'est pour vendre des SUV.
Ah, on va en parler des SUV.
Qui est un segment d'automobile qui a énormément progressé, d'ailleurs, de manière un peu inquiétante ces dernières années. Je pense qu'on va y revenir. Mais donc, on est passé au moment de la voiture comme statut de richesse à la voiture comme affirmer votre personnalité, montrer que vous osez, que vous êtes un aventurier en vous équipant du dernier SUV à la mode.
Olivier Schneider, un mot ?
Oui, alors c'est vrai que dès qu'on parle de la moindre restriction de l'automobile, on voit des réactions épidermiques aujourd'hui. Et donc, ce qui montre qu'il y a un attachement.
Plus que ça, hein, on a eu des mouvements sociaux, il y a eu la crise des gilets jaunes. Enfin, c'est un sujet très crispant.
Tout à fait, c'est ce qu'on appelle épidermique, en effet. Et donc, du coup, il y a quelque chose du domaine de on ne peut plus rien faire, on ne peut plus fumer, on ne peut plus boire, on ne peut plus, etc. Et donc, il y a une espèce d'agacement là-dessus. Et c'est vrai que ce que vient de dire Mathieu, aujourd'hui, comme vous l'avez dit, dans certains milieux, tout le monde a une voiture. C'est plus une question de montrer qu'on est riche, mais c'est de montrer finalement qui on est. Et d'ailleurs, souvent, quand on n'a pas de voiture, c'est aussi montrer qui on est. Donc c'est vrai que la façon de se véhiculer, et on le voit aussi avec la honte de prendre l'avion, etc.
C'est une affirmation de soi.
Moi, je voyage en première en TGV. Non, moi, je fais du covoiturage. C'est une façon se présenter aux autres. Il y a qui on est. Il y a aussi comment on se déplace. Donc c'est quelque chose de, en effet, d'essentiel.
Et on continue à questionner la place de la voiture dans nos sociétés modernes. Et vous, à quoi vous roulez? J'attends vos questions, vos avis, vos réactions sur Twitter et sur France Inter, hashtag débat de midi. Pour l'heure, on embarque avec Iggy Pop de Passenger.
Drive, and everything was made for you. And-
Midi 15 sur France Inter, nos futurs, la voiture, c'est le thème du débat de midi. L'émission a été préparée et pilotée par Anna Massardier.
Allez, en voiture, Simone.
En voiture !
En voiture !
Vous connaissez le moteur à explosion ?
La ferme et avance !
C'est pas vrai, il avance pas. Hein. Il bloque tout le monde, là.
National 7, mon petit, c'est les Champs-Élysées de la France.
Mais il le fait exprès ou quoi?
Ouais, mais moi je suis comme ma voiture. Je suis sobre sur la route et je consomme en ville.
En 2017, le prix du litre de gasoil était environ à 1,32€. Aujourd'hui, il est au-dessus des 1,50€. Les taxes sont passées par là.
Oh, il n'y a plus d'essence. Faut que je m'arrête.
À l'horizon 2030, les constructeurs automobiles devront avoir réduit les émissions de gaz à effet de serre de leurs véhicules de 30% par rapport à 2021. Des efforts nécessaires, insiste-t-on à la Commission européenne, pour respecter les objectifs climatiques que s'est fixé l'Europe.
Et on vient d'entendre des extraits de la série Un gars, une fille, où le personnage incarné par Alexandra Lamy perd ses nerfs au volant en allant travailler le matin. Ça illustre, Olivier Archambault, un paradigme qui est encore assez fort. Auto, boulot, dodo. On sait que 70% des Français vont sur leur lieu de travail en voiture, même sur des trajets assez courts. Ce trajet quotidien, c'est vécu comme une contrainte ou comme une routine agréable?
Moi, je pense que la plupart des cas, c'est une contrainte, parce qu'il faut bien pouvoir se déplacer. Donc, comme on le disait, d'aller d'un point à un point B. Ça peut être un agrément à partir du moment où on peut rouler, c'est-à-dire qu'on est dans un embouteillage. Hein. Ça s'adresse plutôt à la ruralité dans ces cas-là. Hein. Ou même, on en commence à avoir dans certaines agglomérations quelques problèmes de bouchons
oui,
aussi
oui,
à certaines
voit,
heures.
Oui.
Bah, oui, tout à fait. Mais effectivement, c'est un moyen de plaisir aussi, parce que c'est une bulle. Et cette bulle, par définition, vous met en dehors des autres, et donc on a besoin aussi d'avoir une certaine liberté, une certaine autonomie, et c'est ce aussi pourquoi la voiture est défendue.
Olivier Schneider, qui sont les 2%, et dites-moi si le chiffre est juste, qui sont les 2% des Français qui vont au travail à vélo?
Alors, c'est plutôt 2% des déplacements qui se passent à vélo, mais heureusement le nombre de cyclistes c'est un peu plus que 2%, alors après c'est toujours un peu compliqué de différencier le pourcentage de déplacement de pourcentage des usagers. Aujourd'hui, c'est très différencié. On a des régions comme autour de Strasbourg, comme autour de Grenoble, où ce taux passe à 15%. Et donc où c'est tout le monde, hein, des hommes, des femmes, des plus jeunes, des plus âgés, y compris des enfants. Et vous avez des régions où c'est en dessous d'1%, où rien n'est fait pour
Oui, comment on explique ces disparités? C'est simplement une question d'infrastructures cyclables?
Alors, d'infrastructures, mais aussi de quelque chose de plus large qu'on appellerait le système vélo, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait des infrastructures, mais aussi pour circuler, des infrastructures pour stationner son vélo, mais aussi savoir apprendre à faire du vélo, soit avec ses parents, soit à l'école. C'est aussi une question de temps, c'est-à-dire que quand vous lancez une politique cyclable aujourd'hui, comme c'est par exemple fait à Paris depuis plusieurs années, faut un certain nombre d'années pour prendre l'habitude d'utiliser un moyen de déplacement. Donc c'est à la fois la présence des infrastructures, mais c'est aussi l'ancienneté de ces infrastructures. À Strasbourg, il y en a depuis longtemps. À Grenoble, il y en a depuis longtemps. C'est pour ça qu'on a beaucoup plus de cyclistes. Mais là où il y a très peu de cyclistes, là, c'est plutôt des hommes de 30-40 ans et beaucoup moins de personnes âgées, d'enfants ou de femmes. Et donc, finalement, quand c'est dangereux, c'est plutôt les hommes dans la force de l'âge, entre guillemets, qui en font. Et plus il y a de femmes, d'enfants et de personnes âgées qui font du vélo, plus ça veut dire que finalement c'est sécurisé.
On vient de parler d'embouteillage ou de bouchons. Mathieu Chassinier, vous dites à ce sujet quelque chose d'assez surprenant. Vous dites que les villes où il y a le plus de bouchons, ce sont les villes qui mettent le moins de contraintes. Expliquez-nous.
Oui. Alors on voit souvent
Marseille, par exemple, vous citez Marseille.
Oui, alors on voit souvent que quand il y a des bouchons, les automobilistes ou les associations d'automobilistes vont demander des infrastructures routières supplémentaires, comme si ça allait soulager finalement le niveau de trafic. Ce qu'on voit, c'est que les villes qui font ça, finalement, quand on augmente la capacité routière, on augmente le nombre de trajets fait en voiture, le nombre de kilomètres surtout fait en voiture. Pourquoi? Parce que quand on fait de nouvelles infrastructures, finalement les entreprises vont s'installer à d'autres endroits, il y a des zones commerciales qui se développent, les personnes vont habiter plus loin de leur lieu de travail parce qu'elles savent qu'il y a une nouvelle infrastructure routière, ce genre de choses. Et donc effectivement, on voit que plus il y a d'infrastructures routières, plus il y a de bouchons. Et quand on dit y a plus il y a de bouchons, ça veut dire plus les gens perdent de temps dans leur voiture. Donc c'est même à dire que finalement, plus on en fait pour la voiture, et plus, in fine, tout le monde est pénalisé, y compris les automobilistes, qui sont ceux qui perdent le plus de temps. Alors, il existe des classements internationaux des villes où on perd le plus de temps au volant.
Lesquels dans le top 3 ?
En France, c'est souvent Marseille qui a la palme. On voit que Marseille, c'est une ville très routière, avec beaucoup d'autoroutes qui pénètrent jusqu'en cœur de ville. Et puis, si on regarde à l'échelle internationale, ça va être les villes américaines, par exemple, Los Angeles, Houston, on a des autoroutes de 10 fois
saturées.
8, parfois 10 fois 10 voies, 2 fois 10 voies, pardon. Des villes comme Mexico, par exemple, où il y a des autoroutes à 2 étages, donc absolument énormes, et où la vitesse de circulation est extrêmement faible, ou des villes comme Moscou, enfin voilà, ce sont souvent les villes qui ont le plus d'infrastructures routières, les autoroutes les plus larges.
Didier Bollecker, vous dites le contraire, vous dites que ce sont les restrictions qui créent les embouteillages, c'est ce que vous nous avez dit.
Je dis que certaines restrictions sont nécessaires, mais que d'autres sont inutiles, et sont destinées à créer des bouchons qui permettent de stigmatiser la voiture. Je crois qu'aujourd'hui, beaucoup de choses sont faites pour des tas de modes de déplacement et qu'on est en train d'essayer de bannir la voiture à tort par des moyens coercitifs, alors que les technologies modernes permettraient de donner des flux de circulation beaucoup plus souples sans augmenter les infrastructures.
De quelle technologie vous parlez précisément ?
Des technologies de comptage de voitures pour avoir des vagues vertes, pour éviter que les voitures ne soient à l'arrêt, des passages de 2 voies, 3 voies dans un sens ou dans l'autre selon que c'est l'entrée ou la sortie des villes et des heures de travail. Il y a comme ça des tas de systèmes qui peuvent être mis en place.
Olivier Archambault, la voiture c'est comme un frigidaire où l'électricité, tout le monde en a besoin.
Oui, tout le monde a besoin. En fait, il faut revenir aux fondamentaux. La voiture, c'est quoi ? C'est 3 choses. C'est un vecteur, depuis le début de l'automobile. Avant, c'était le cheval, après le chameau, après la voiture, c'est un vecteur. Et on va définir cette forme de vecteur. Ça peut être aussi une voiture volante. Ça peut être de nouveaux procédés. C'est un vecteur individuel. Ensuite, c'est l'énergie qu'on met dedans. Qu'est-ce qu'on choisit comme énergie pour ce véhicule ? Ensuite, il y a l'idéologie de son utilisation. Est-ce qu'on considère que le déplacement individuel dans une société est encore important ? Est-ce qu'on considère que la mobilité doit passer par tout un tas de choses, y compris par le collectif ? Mais à ce moment-là, il faut que ça marche. Et ça, ce sont les 3 éléments. Et le 4e élément, c'est ce que pensent les gens eux-mêmes, c'est-à-dire le citoyen qui utilise sa voiture.
Une réaction de Michel qui nous écrit ceci. Nous vivons à la campagne, nous sommes retraités 73 ans tous les deux avec sa femme. Donc, en ce moment, le sujet s'accentue. Il est de bon ton de crier, de taper sur la bagnole. Comment voulez-vous faire quand on habite à 25 km de la ville principale, 8 km de la bourgade où se déroule un marché le jeudi? Mathieu Chassinier, il y a aussi une question d'égalité de territoire. On dit que tout le monde est accro à la voiture en France, mais tout le monde n'est pas logé à la même enseigne en termes d'urbanisation, de...
En fait, si on élargit un petit peu les choses, en fait, ce qui importe, c'est finalement de réduire le nombre de kilomètres en voiture au total en France. Et ce nombre de kilomètres dépend de 3 paramètres. Le premier, c'est combien de kilomètres je dois faire dans l'année. Le deuxième, c'est ces kilomètres, quel pourcentage de ces kilomètres je fais en voiture. Et puis le troisième, c'est ce que je fais en voiture, quel type de voiture j'utilise. Est-ce que j'utilise une voiture qui consomme peu, qui consomme beaucoup, qui est très grosse ou qui est petite. Et donc finalement, les pouvoirs publics peuvent agir sur ces 3 paramètres. Ce qui est un peu dommageable, c'est que le débat public, finalement, s'oriente toujours sur le 2e paramètre, à savoir, est-ce que je prends la voiture ou est-ce que je prends autre chose? Et c'est là que les gens se sentent un peu stigmatisés, etc. Donc, il y a des choses à faire sur ce paramètre-là, mais il y aurait aussi des choses à faire sur les 2 autres, qui sont quasiment absents du débat public, qui sont quasiment absents des mesures qui sont proposées par-ci, par-là. Mais si déjà on arrivait à faire en sorte que les gens puissent réaliser leurs activités en faisant beaucoup moins de kilomètres, parce qu'il y a des activités plus proches de leur lieu de travail, par exemple.
Je parlais de l'urbanisation, ça veut dire repenser la manière de construire les villes, les centres commerciaux, l'étalement urbain.
Ouais, alors c'est même 2 choses. C'est effectivement une question d'urbanisation, la façon dont on organise le territoire. Et puis c'est aussi quand même une question de choix personnel. Et aujourd'hui, par exemple, on voit qu'il y a des choses extrêmement contre-productives, c'est-à-dire que la fiscalité aujourd'hui favorise les gens qui habitent plus loin de leur lieu de travail. Si vous habitez plus loin de votre lieu de travail, vous allez payer moins d'impôts que celui qui habite plus près de son lieu de travail. Et donc là, je pense quelque chose de pas tout à fait logique, d'assez contre-productif. Et je pense qu'on pourrait essayer de remettre à plat un petit peu ces choses-là pour dire, un des objectifs qu'on s'assigne, aujourd'hui on donne des objectifs, faut réduire de X% le nombre de déplacements faits en voiture. Aujourd'hui, on sait que les déplacements sont de plus en plus longs. On pourrait se mettre un objectif qui est de dire, on fait en sorte que ça n'augmente plus, ou on fait en sorte que les déplacements soient de longueur plus courte.
Didier Bollecker voulait intervenir. Je rappelle que vous présidez donc l'Automobile Association, Club Association, pardon. Je vous écoute.
Oui, je fais partie du Conseil mondial de la mobilité de la Fédération internationale de l'automobile. Moi, je ne pense pas que la réduction à tout prix des distances parcourues en voiture soit un objectif prioritaire. Je pense que l'individu, et là je m'inscris dans un courant de pensée très très clair, doit avoir le choix de sa mobilité et de la méthode dont il entend se mouvoir.
Ouais.
Je ne vois pas pourquoi les pouvoirs publics ou la société, au sens sociologique du terme, devraient imposer un mode de transport à l'individu, sauf dans certaines circonstances tout à fait particulières.
Olivier Schneider, on est dans cette configuration-là, on impose aux gens la manière dont ils doivent se déplacer ?
Les contraintes qu'on met parfois à l'automobile sont souvent vécues comme ça. On nous oblige à prendre le transport en commun, le vélo ou marcher, mais en réalité, il y a relativement peu de contraintes sur l'automobile au regard de ce qu'on appelle les externalités que produit la voiture. C'est-à-dire que la voiture va à la fois polluer, c'est-à-dire à la fois émettre des polluants atmosphériques qui sont mauvais pour nos poumons, et à la fois des gaz à effet de serre qui vont aggraver le climat. Elle va aussi créer un danger pour les piétons, les cyclistes, les autres automobilistes. Statistiquement, tous les X kilomètres, vous allez provoquer un accident ou subir un accident. Par ailleurs, il y a une autre chose, c'est la sobriété spatiale. C'est-à-dire que dans les voitures, en moyenne, vous avez 1,2 personnes. Et finalement, même en incitant les gens à covoiturer, etc., c'est ce que vous évoquiez, Olivier,
Olivier
les
Archambault.
Gens aiment bien être dans une bulle et donc ils n'ont pas envie de partager leur véhicule. Donc il y a un problème spatial parce que chaque voiture prend énormément de place. C'est pas juste la surface de la voiture, c'est la surface de la voiture plus l'air qu'il lui faut pour circuler. Hein. Plus la vitesse est grande, plus il faut des surfaces de route importantes par personne. Et enfin, il y a un dernier effet dont on parle peu, c'est l'effet indirect sur la santé. C'est-à-dire que grâce au progrès du 19e et du 20e siècle, on n'est plus contraint de travailler ni 10 heures, ni 12 heures, ni 8 heures par jour, en tout cas pas travailler physiquement. Or, nous sommes des usines physico-chimiques, on a besoin d'avoir une ou deux heures d'activité physique par jour.
Or, on se sédentarise.
Et justement, on se sédentarise, on est assis comme nous dans ce studio ici, on travaille assis, on est ensuite dans la voiture assis, puis assis devant le canapé, et la bonne nouvelle, même si la sédentarité est très mauvaise pour la santé, c'est que une heure d'activité physique, même légère, compense 8 heures de sédentarité. Et finalement, la marche ou le vélo ou toute autre activité physique, même légère, permettent de le compenser. Mais aujourd'hui, vu les distances, vu l'organisation et vu le temps qu'on passe sur les écrans, on n'a plus 7 heures ou 2 d'activité physique. Et notamment, c'est dramatique en ce qui concerne les plus jeunes, nos enfants,
les enfants,
qui vont vivre longtemps, mais qui vont vivre plus de la moitié de leur vie en mauvaise santé.
Olivier Archambault.
Oui, il faut faire attention à ne pas diaboliser dans nos sociétés la mobilité, c'est-à-dire le fait d'être libre de circuler où on veut, quand on veut. Et on a vu ce que ça donnait. Le meilleur principe écologique pour ne pas faire bouger les gens, ça s'appelait l'URSS. Les gens travaillaient à 500 mètres de leur usine. Ils y allaient à pied, parfois en vélo, personne n'avait de voiture. C'est un choix. Il n'y a pas de jugement de valeur là-dedans. C'est idéologiquement très important de garder, à mon sens, un certain nombre de caractères physiques, chimiques, de ce que c'est qu'un homme, de ce qu'il doit faire, de ce qu'il ne doit pas faire, ça d'accord. Mais il faut aussi garder à l'esprit ce que veut la mentalité de l'homme, l'individu. Depuis qu'on est passé de nomade à sédentaire, ça fait très très longtemps, et vous le disiez tout à l'heure, on est à la fois coincé par ce principe de mobilité et à la fois coincé par ce principe de fait qu'on doit, on doit pouvoir...
Je reprends le témoignage de Michel qui nous écrivait, qui dit que lui, il n'a pas le choix en milieu rural, il n'a pas le choix. Donc cette liberté individuelle, elle est limitée aujourd'hui.
Bah bien évidemment, mais on peut changer. C'est pour ça que les critères aujourd'hui sont fixés par l'automobile telle qu'on la connaît depuis un siècle pratiquement. Mais il y a d'autres moyens à inventer, des moyens de liberté individuelle de déplacement. qui ne s'appellent pas forcément voiture, peuvent s'appeler n'importe quoi, capsule, n'importe quoi.
Didier Bollecker parlait de stigmatisation. Est-ce que c'est juste de parler d'autophobie, comme c'est évoqué ces derniers temps? Il y a une forme d'autophobie en France qui serait nouvelle par rapport aux décennies précédentes?
Je ne pense pas qu'il y ait d'autophobie particulière. Je pense que ça vient surtout des gens, entre guillemets, qui ont plus la parole que d'autres. Il faut bien l'avouer, c'est un des formes d'action des Gilets jaunes. C'est-à-dire on n'entendait pas les gens qui étaient pour ça ou pour autre chose. Et en centre-ville, au cœur des grandes villes, et bien évidemment que la voiture n'a plus d'intérêt. Ça, pas directement.
Mathieu Chassigné, vous voulez réagir?
Oui, alors il faut dire qu'on connaît de mieux en mieux les conséquences de la voiture aujourd'hui, notamment,
on est mieux informé,
notamment la pollution de l'air. Il y a 10 ans, on connaissait très peu de choses des conséquences de l'exposition à la pollution. Aujourd'hui, on découvre que c'est un facteur aggravant d'énormément de pathologies, Alzheimer ou autre, le diabète, etc. Et donc finalement, les gens qui n'ont pas de voiture, qui se déplacent peu en voiture, acceptent de moins en moins qu'on ne contraigne pas la voiture. Donc je pense qu'il y a une polarisation du débat, effectivement, qui est en partie liée au fait qu'on sait de plus en plus quelles sont les conséquences de la société du tout voiture. Et ce sont des conséquences qui sont quand même assez, assez désastreuses.
Les voitures telles qu'elles sont construites aujourd'hui.
Ouais. Didier Bollecker, vous dites quelque chose qui est à rebours de ce qu'on vient d'entendre en préparant l'émission. Vous nous avez dit que depuis 15 ans, l'air des villes est de plus en plus pur. C'est pas tellement
c'est
le.
C'est une évidence chiffrée que si vous regardez dans le détail les rapports d'Air Paris ou des autres instituts, il est évident que l'air s'est amélioré ces dernières années dans les villes. Alors c'est dû au progrès technologique. Je rappellerai quand même que les émissions de gaz par exemple de gaz à effet de serre émises par les voitures particulières ne représentent que 15% des émissions. Et on ne tape que sur la voiture. Qu'est-ce qu'on fait pour la réduction des gaz à effet de serre dans l'industrie, dans les autres modes de transport?
Il n'y a rien qui est fait, selon vous?
Ce n'est que 15%. Avec aussi des politiques assez douteuses, on a incité les Français à acheter des voitures diesel à une époque où elles étaient polluantes. Et aujourd'hui, on les sanctionne alors qu'elles polluent de moins en moins. On marche sur la tête dans ce domaine.
Mathieu Chassigné, c'est vrai ce que vient de dire Didier Bollecker. On a eu effectivement une politique d'incitation au diesel qui a duré très longtemps en France et dont on paye peut-être les conséquences aujourd'hui.
Oui, alors sur le fait que l'air s'améliore en ville, alors effectivement, ça s'améliore un petit peu sur les deux principaux polluants que sont les particules et les oxydes d'azote. En revanche, on a toujours à peu près autant de pics de pollution dans l'année, le jour où l'air est très dégradé. La pollution à l'ozone a plutôt tendance à s'aggraver et le réchauffement climatique, c'est un facteur de... Parce que l'ozone, c'est un polluant qui intervient quand il fait chaud, donc plutôt l'été. Donc là-dessus, on est plutôt sur une mauvaise pente. Après, je voudrais revenir sur le chiffre de 15% de la pollution qui est mise par les voitures. C'est vrai à l'échelle française, en moyenne, mais en fait, trois quarts des gens habitent en ville quand même. Donc les gens respirent et travaillent plutôt en ville. Et en ville, c'est à peu près 50% de la pollution qui est émise par les voitures.
On peut être exposé à la pollution en milieu rural. On sait qu'il y a des cas d'école, par exemple, d'enfants qui sont exposés à des particules fines parce que proches de réseaux autoroutiers.
Oui, alors là, effectivement, l'agriculture, le chauffage au bois est une source de polluants assez importante. Mais il faut quand même toujours rappeler que en ville, donc là où trois quarts des Français habitent, la pollution automobile est responsable de 50% de la pollution totale.
Olivier Schneider, qu'est-ce que vous répondez aux gens qui disent, on les entend, hein, qui disent je vais pas faire de vélo parce que c'est encore plus mauvais pour ma santé de faire du vélo en ville et de respirer des pots d'échappement, etc. Et que ce serait donc contre-intuitif de remplacer la voiture par le vélo.
C'est tout simplement faux. Il y a une étude de l'Agence régionale de santé Île-de-France qui est pourtant pas la région où l'air est le moins pollué, qui montre que les gains de santé publique grâce à la pratique du vélo sont 20 fois supérieurs à la surexposition au risque. Mais en effet, cette exposition au risque, c'est pas le risque d'accident qui est majoritaire, c'est l'exposition au risque pulmonaire. Mais là, il y a plusieurs solutions. Il y a celui déjà de rouler un peu moins vite les jours à vélo, les jours où il y a des pics de pollution.
De pollution.
Il y a d'éviter les trajets les plus pollués. Parfois, on peut faire un petit détour pour passer par une rue moins polluée. Et la troisième, c'est aussi l'utilisation du vélo assistance électrique qui permet d'avoir l'activité physique qui est salvatrice.
Le prix d'un vélo assistance électrique, c'est accessible à tout le monde?
À tout le monde qui a une voiture, oui, parce que ça va les premiers prix sont très bas, mais je recommande pas les premiers prix, mais ça part à 1 000 euros et ça peut aller beaucoup. Après, il y a pas de limite haute, mais à 2 000 euros, on a un très bon vélo assistance électrique. Non, si vous avez de quoi le stocker, il n'y a pas de problème. Vu que vous faites pas le plein après et que ça va vous servir plusieurs années, c'est accessible à tout le monde, à condition de pouvoir le stocker, qu'il soit pas volé une fois par mois.
Mais c'est encore un autre sujet.
Sur la pollution de l'air, sur le vélo, faut bien se rendre compte qu'en fait, il y a un niveau de pollution de fond. Et si vous avez une heure de trajet par jour, ben vous allez absorber beaucoup plus de pollution pendant les 23 autres heures que pendant votre heure de déplacement, malheureusement. Et donc ce qu'on appelle l'exposome, hein, donc ce qu'on va absorber en tout, est bien supérieur, malheureusement, toute l'année, et même y compris en dehors des pics. Par contre, cette heure d'activité physique, elle fait... on pense souvent à l'obésité, qui est la partie visible de l'iceberg, mais il y a les maladies mentales, tout un tas, je suis pas un médecin, mais tout un tas, c'est des études là-dessus, tout un tas de pathologies...
Les maladies mentales, je comprends pas bien le lien.
Il y a beaucoup de gens qui sont en dépression ou en autre pathologie mentale, entre autres parce qu'ils n'ont pas assez d'activité physique, et même les cancers, y compris ceux qui sont les plus graves en France, notamment le cancer du sein, le fait d'avoir une heure d'activité physique par jour, à la fois en préventif comme en curatif, c'est plus puissant que même la majorité des traitements médicamenteux qui pourtant, eux, coûtent des milliers d'euros par mois.
Midi 35 sur France Inter, et on continue à parler de bagnole, c'est juste après Jan Aded, bof. C'était Both Sides, Jan Aded. La programmation musicale du débat de midi est signée Thierry Dupin.
Le débat de midi. Nadia Dam sur France Inter.
Et on continue avec mes invités à interroger la place que prend la voiture. Et je voulais vous soumettre à tous les quatre un message déposé sur franceinter.fr à la page Le Débat de Midi d'Isabelle qui nous dit ceci. On voit de plus en plus de SUV garés devant des pavillons luxueux dans des zones résidentielles où peu de voitures circulent, souvent limitées à 30 km/h. Je voudrais qu'on ouvre une petite parenthèse sur le phénomène SUV. Ça représente aujourd'hui 40% des immatriculations de véhicules neufs en France. Pourquoi c'est un problème, Mathieu Chassinier? Cette mode, ce...
Alors effectivement, ça s'est développé très rapidement. Il y a 10 ans, c'était 5% de part du marché. On appelait ça des 4x4 à l'époque d'ailleurs.
SUV d'ailleurs, ça veut dire quoi?
Ça veut dire Sport Utility Vehicle. En gros, ça ne veut pas dire grand-chose, mais c'est un terme qui est moins connoté négativement que 4x4. Donc les constructeurs se sont dit, on va plutôt privilégier ce terme-là. Il y a 10 ans, on était à 5% de part de marché. Aujourd'hui, on a 38%. En 2019, c'est 38% de part de marché. Ça progresse de 3 à 4% par an. Donc si on tient ce rythme-là, en gros, dans 3 à 4 ans... Les SUV seront majoritaires dans les ventes. On a même finalement des aberrations aujourd'hui. Le pick-up, donc le 4x4 américain avec un plateau arrière, aujourd'hui c'est 1% des véhicules vendus en France. C'est 23 000 ventes en 2018.
Pourquoi c'est une aberration? Parce qu'on n'en a pas franchement l'utilité sur les routes françaises?
Parce que, pourquoi le SUV est un problème?
Oui.
Ça concentre en fait beaucoup de problèmes. Du fait que c'est plus lourd et moins aérodynamique, ça consomme plus. Ça occupe plus d'espace en ville. On sait que nos villes sont assez limitées en espace. Ça prend plus d'espace en circulation, en stationnement.
Ça pèse 2,5 tonnes, hein, par ailleurs.
Un pick-up pèse 2,5 tonnes. Un SUV, ça démarre quand même beaucoup plus bas. Mais effectivement, c'est plus lourd qu'un véhicule classique. Ensuite, on voit que c'est plus dangereux. Les Américains commencent à prendre conscience du problème. C'est-à-dire qu'en cas de choc d'un piéton avec un SUV, il a 2 à 3 fois plus de chances d'être tué que si c'était une voiture un peu plus normale.
Il y a la hauteur de la voiture aussi qui fait qu'on ne voit pas nécessairement les enfants.
Et après, dernière chose dont on parle assez peu, mais on sait que les acheteurs de véhicules neufs sont plutôt des personnes plus aisées que les acheteurs de voitures d'occasion.
Ce qui avait l'air de suggérer notre auditrice.
5 à 10 ans, le marché de l'occasion sera inondé du SUV et on risque d'avoir des personnes assez modestes qui n'auront plus vraiment le choix, qui seront obligées de se tourner vers un véhicule comme cela, qui est beaucoup plus cher en usage, parce qu'il consomme plus et que c'est plus cher à l'entretien. Donc ça risque de mettre en difficulté toute une série de personnes.
Didier Bollecker, une réaction
oui,
sur cette
nous
tendance.
Nous sommes interrogés sur cette mode qui n'est pas très rationnelle. Ceci étant, je crois qu'il faut la rattacher au phénomène qui a déjà été évoqué de la bulle. Raphaël Endoven a bien montré que finalement la voiture, quand on circule, c'est un peu un chez-soi sur roulette. On n'est pas importuné par les autres. Et puis on peut trimballer dans son coffre des tas de choses, notamment son vélo.
Notamment des enfants.
Ses enfants, la trottinette, les courses, etc. Et donc cette augmentation de la taille est probablement lié à cette notion de cocon. Maintenant, il est tout à fait clair que dans au moins la moitié des cas, un SUV ne s'impose absolument pas pour une famille qui en a peut-être plus l'usage en week-end ou pendant les vacances. Mais c'est un phénomène qu'il faut constater et il faut bien dire que les constructeurs poussent à la roue.
Mathieu Chassinier, les constructeurs et le marketing automobile.
Alors,
vous voulez en parler en début d'émission.
Pourquoi les constructeurs misent tous sur ce type de véhicule? La raison, elle est très simple, elle est très, très mercantile, c'est que c'est des véhicules qui sont plus rentables. Le taux de marge est bien plus élevé sur un SUV que sur une berline. Du coup, tout le marketing se construit autour des SUV. La publicité automobile, c'est 3,5 milliards d'euros par an. Et on voit qu'aujourd'hui, il y a à peu près 3/4 des pubs qui sont pour des SUV. Donc 3,5 milliards par an, ça veut dire que sur les 2 millions, un peu plus, de voitures qui sont vendues chaque année en France, dans ce que vous payez, il y a 1500 euros qui est en fait des dépenses publicitaires. Et pour terminer sur le SUV, on entre dans un cercle vicieux en fait, dans le sens où le jour où le SUV dépasse une certaine part des véhicules sur la route, finalement on devient presque obligé d'avoir un SUV aussi, puisqu'il devient très inconfortable d'être dans une...
D'être tout petit à côté, en fait.
Une petite voiture à côté et d'être entouré de gros mastodontes. Et on voit d'ailleurs que certains constructeurs automobiles abandonnent la gamme des plus petits véhicules, parce que ça ne se vend plus. Donc on aura bientôt plus le choix contre des véhicules relativement importants.
Olivier Schneider, vous sentez tout petit à vélo à côté d'un SUV?
Ah, c'est sûr que c'est inconfortable de cohabiter avec ces énormes véhicules, et surtout parfois avec aussi des gros, enfin des endroits où il y a des angles morts et donc on ne nous voit pas autour. Alors après, au-delà du fait de débattre ce que ça veut dire SUV, est-ce que c'est sans utilité véritable ou autre, il y a un réel paradoxe, c'est qu'on a mis le bonus-malus en place et que malgré le bonus-malus, qui est de plus en plus accentué, il faut un véhicule vraiment qui pollue pas pour bénéficier d'un bonus, les émissions moyennes des voitures neuves augmentent, ce qui est quand même un paradoxe. Enfin, ça montre que les objectifs qu'on a de baisse, alors j'ai bien conscience qu'il y a d'autres choses à baisser que uniquement les voitures. Néanmoins, sur les voitures, faut que chacun prenne sa part. Et là, c'est pas parce que des gens en ont besoin, c'est parce que des gens, même l'Automobile Club, admet que c'est pas rationnel. Ensuite, sur le vélo, alors heureusement, il y a l'équivalent, mais qui a une utilité véritable, des SUV pour les vélos, c'est les vélos cargo. Ce sont des vélos qui ont deux ou trois roues, qui sont plus longs généralement, soit rallongés par l'avant, soit par l'arrière. Par exemple, ce qu'on appelle un triporteur quand il y a trois roues, ou biporteur quand il y en a deux, et ça permet de transporter soit des marchandises volumineuses, soit ses enfants, soit une personne en situation de handicap. Et donc c'est un phénomène qui se développe beaucoup en France, et je pense que ça c'est assez positif. Mais après, dans ce que disait le président de la CR, il y avait quelque chose d'intéressant. On peut aussi dans un SUV transporter un vélo. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a un véritable problème sur les ruptures de charge, notamment entre le transport en commun, que ce soit les trains ou les cars, et le vélo. Et aujourd'hui, beaucoup de gens souhaiteraient faire un trajet combiné en faisant une partie à vélo et une partie en train.
Et donc mettre son vélo dans le TGV,
Le problème, c'est qu'il y a peu de place par train. Il y a des trains où il y a très peu de place, il y en a où il n'y en a pas du tout, il y en a d'autres où c'est pas soumis à réservation, donc on ne sait pas combien de personnes, si d'autres personnes ont eu la même idée que vous, vous allez peut-être rester, comme il y a eu plusieurs incidents cet été, sur le quai. Et comme il n'y a pas suffisamment de stationnement sécurisé dans les gares, comme il n'y a pas suffisamment d'offres de location en fin de trajet pour faire son trajet en train et récupérer un vélo à la fin, ça fait qu'en effet, beaucoup de gens, pour faire du vélo, s'équipent d'une voiture, d'une très grosse voiture, et transportent leur vélo avec. Et donc c'est vrai que c'est paradoxalement un des usages sans doute des SUV, c'est de pouvoir emmener ses vélos pour faire du vélo en pleine nature.
Olivier Archambault, le député Mathieu Orphelin, qui est un ancien de La République En Marche, défend l'idée d'inscrire dans les publicités pour les voitures des messages en faveur des transports en commun. C'est comme si sur un paquet de cigarettes, on vantait les mérites d'une Nicorette, par exemple. Est-ce que ça marche? Ça marcherait comme discours,
je sais pas
discours,
si ça marche
comme
ou pas,
méthode.
De toute façon, depuis la nuit des temps, depuis que l'automobile existe, la publicité est par définition mensongère. Si vous regardez toute publicité d'automobile à la télé, par définition, elle se trouve dans un endroit magnifique où la voiture n'ira sans doute jamais. Où
il n'y a jamais d'embouteillage.
Sauf à Société d'Explorateur. Oui. Et où il n'y a jamais d'embouteillage, où il y a des lacets magnifiques où on ne peut pas conduire, etc., etc. Donc voilà. Cela dit, il ne faut pas oublier que les SUV ont quasiment sauvé en grande partie une partie de l'industrie automobile française.
En termes d'emploi, vous voulez dire.
Il ne faut pas l'oublier non plus. Après, c'est un choix politique, hein, encore une fois. Hein. C'est pas un jugement de valeur, hein. C'est juste un fait. Et qu'après, les gens achètent quand même, jusqu'à preuve du contraire, ce qu'ils veulent. Si on veut changer, et ben à ce moment-là, encore une fois, on revient à des modèles anciens qui sont, vous faites quatre modèles, vous proposez quatre modèles aux gens, il n'y a aucun problème, ça marche très bien aussi.
Mathieu Jassigné, une réaction?
C'est-à-dire que c'est pas interdire aux personnes d'acheter le véhicule qu'ils veulent, mais l'État est quand même garant de l'atteinte d'un certain intérêt général. Et étant donné que le SUV, c'est un véritable cercle vicieux qui va finalement nous faire perdre en liberté, puisqu'on sera obligé de rouler en SUV si tout le monde a un SUV. C'est ce qui se passe aux États-Unis d'ailleurs, aujourd'hui.
Le SUV, Chambaud, c'est 75% de véhicules.
Non, mais c'est pas les mêmes contextes. On peut pas comparer les États-Unis aux routes européennes. C'est
certes, impossible. Mais s'il y a 10 ans, je vous avais dit, en 2019, le SUV sera 40% des ventes. Vous ne m'auriez sans doute jamais cru. Et donc, dans 10 ans, comment sera le marché automobile? Je crois qu'aucun d'entre nous n'est capable de le dire.
Non,
mais il y a un vrai risque.
Pas capable de le dire. Non, mais il est pas capable de le dire pour une raison simple. C'est qu'aujourd'hui, on n'a pas redéfini ce que c'était avec l'automobile et la mobilité automobile. On n'a pas redéfini. On ne sait pas encore. En 1898, les gens ont eu le choix entre le pétrole, le diesel, le gaz et l'électricité. D'accord? On en est là. C'est une nouvelle révolution qui s'installe. Pour l'instant, personne n'a fait le choix. Certains vont vers le tout électrique, d'autres vers l'hydrogène, d'autres vers d'autres formes encore. Pour l'instant, on n'a pas choisi. Donc on est en transition de l'automobile aujourd'hui.
Une question de Jean-Claude qui nous parle de la voiture électrique. On n'en a pas encore parlé. Il est assez sceptique. Voilà ce qu'il écrit. Verra-t-on dans 15 ans la voiture électrique décriée comme l'est aujourd'hui la voiture thermique? L'empreinte carbone des batteries, le non-recyclage de ces dernières, la quête des métaux précieux qui la composent ne vont pas dans le sens de l'écologie. Pourquoi ce matraquage pour l'achat de véhicules électriques? Didier Bolleker, vous souscrivez au scepticisme de Jean-Claude?
Oui, j'ai souscrit en partie. Alors, il faut bien distinguer plusieurs aspects. En ville, où il y a parfois plus de concentration de polluants, la voiture électrique est certainement pertinente. Mais il faut bien se rendre compte qu'elle ne fait que déplacer la pollution du lieu de fabrication d'électricité au lieu de sa consommation.
Oui.
Avec encore un handicap énorme, même si vous prenez une petite citadine électrique, vous voyez qui je vise en France, eh bien, à peu près le tiers du poids de la voiture, c'est les batteries. Donc vous avez 30% de l'énergie qui sert à transporter ce qui contient l'énergie. Je pense qu'au niveau écologique et énergétique, c'est assez aberrant. Alors, est-ce que par la suite, l'hydrogène, à l'horizon 10-15 ans, sera une autre solution? Bah, peut-être, si on arrive à trouver des moyens de production d'hydrogène qui ne soient pas trop consommateurs d'énergie.
Ouais.
Mais aujourd'hui, c'est vrai que la voiture électrique sur les grands trajets, ça ne marche pas. Hein. C'est 250 km en fait d'autonomie, si vous voulez avoir la radio, les essuie-glaces et les phares. Et il n'y a pas de réseau. Bon, donc aujourd'hui, ce n'est pas véritablement une solution. Il y a un domaine de pertinence en ville actuellement pour la voiture électrique.
Et encore une réaction d'auditeurs, elles sont très nombreuses aujourd'hui. C'est Marie-Laurence qui nous écrit depuis Lille et qui dit ceci: en métropole lilloise, aux heures de pointe, tout est engorgé. Beaucoup de gens prennent les transports en commun. Or, depuis le début de l'année, beaucoup de lignes de bus ont été supprimées. Mathieu Chassinier, c'est votre zone, les Hauts-de-France. Et vous avez réfléchi à une solution concrète et qui serait peut-être expérimentée à Lille. C'est le péage inversé. Qu'est-ce que c'est?
Oui, alors c'est un sujet sur lequel j'ai travaillé pour la métropole européenne de Lille pendant un an et demi. Le péage inversé, en fait, c'est un concept qui vient des Pays-Bas. Ça consiste à dire, ok, il y a des routes qui sont embouteillées tous les matins entre 8h entre 7h et 9h. C'est tous les jours les mêmes personnes qui l'utilisent. Donc on va faire un péage inversé, on va pas faire payer l'utilisation de la route. Par contre, ceux qui acceptent de ne plus l'utiliser, une fois de temps en temps, on va leur donner une petite rémunération financière. On va leur donner 2 à 3 euros à chaque fois qu'ils évitent un trajet. L'idée, c'est pas forcément de le faire tous les jours, mais de le faire peut-être 2-3 fois par semaine pour ceux qui le peuvent. Du coup, ça permet à moindre coût finalement, ça coûte beaucoup moins cher que d'augmenter la capacité routière, et en plus ça pose enfin c'est très problématique aussi de faire ça. Et donc ça permet à ceux qui continuent d'utiliser leur voiture d'avoir une accès à une route sur laquelle ils vont perdre moins de temps. Et puis les autres, finalement, ça va les faire tester des nouvelles solutions. On sait que le fait de tester, c'est très important dans le changement de comportement et dans la mobilité. Donc elles vont se mettre à tester le covoiturage, les transports collectifs ou autres, peut-être le vélo assistance électrique. Et il y a des chances que certaines y prennent goût et qu'elles pérennisent finalement ce nouveau comportement.
Olivier Archambault, l'incitation plus que la sanction, la carotte plutôt que le bâton?
Bah ça, de toute façon, c'est la fameuse histoire de l'écologie punitive ou non punitive. Hein, c'est la même technique. Je crois que les gens en ont franchement assez des punitions.
Ça s'est vu en tout cas.
Ça s'est vu et c'est normal. Et c'est normal. On est dans un pays de liberté, il faut jamais l'oublier, et j'espère que ça le durera. Et donc, à partir de là, il faut inciter les gens, oui, parce qu'il y a des comportements à changer, certainement, mais il faut aussi faire en sorte que ce soit possible, et pas dans la sanction ou dans la contrainte. Parce qu'effectivement, comme vous l'avez rappelé, on n'a pas forcé, mais on a fortement incité les gens à acheter tel ou tel type de véhicule depuis des années. Et là, je crois qu'il y a quand même une grosse responsabilité de nos pouvoirs publics qui n'ont pas su voir à très long terme ce que c'était que le déplacement et la mobilité collective. Et ça, parce que c'est assez nouveau, en fait, comme débat. Hein, c'est 10-20 ans, même pas. Donc, et ça, c'est très dommageable. Donc ça, il faut repenser tout ça, et peut-être même au niveau européen.
Une dernière question pour vous, juste avant de conclure. Vous avez dit, en préparant l'émission, on est en retard en France sur la mobilité volante. Qu'est-ce que c'est, la mobilité volante?
Et bah, parce que ça existe aux États-Unis, Aux États-Unis, il y a des voitures volantes qui sont homologuées. Alors, faut avoir un permis avion et un permis voiture, d'accord? Mais ça existe, et donc on peut se déplacer d'un point A à un point B. Pour l'instant, c'est d'aérodrome à aérodrome, de petit aérodrome à aérodrome. Mais vous allez, par exemple, vous faites Blois-Limoges, vous prenez votre voiture de chez vous, vous allez à l'aérodrome, vous décollez, et puis vous arrivez à Limoges, et vous allez chez vous.
Oui, ça a l'air très simple, dit comme ça.
C'est extrêmement simple.
Oh, l'émission touche presque à sa fin. J'ai une dernière question pour mes quatre invités.
Le débat de midi sur France Inter.
C'est la question rituelle du débat de midi. Je voudrais savoir avec quelle personnalité vivante ou disparue, célèbre ou anonyme, vous aimeriez débattre du sujet qui nous concerne aujourd'hui ou pas du tout d'ailleurs. Olivier Schneider.
Moi, ce serait avec l'architecte et urbaniste franco-suisse Le Corbusier, qui imaginait qu'on serait tous à la campagne, enfin dans une fausse campagne, et que tous les jours on prendrait la voiture pour rejoindre une fausse nouvelle ville. Et je voudrais débattre avec lui de l'alternative que constituerait un territoire aménagé avec une ville des courtes distances. Alors sans aller jusqu'à l'exemple soviétique où on est à 500 mètres et qu'on peut pas se déplacer.
L'exemple d'Olivier Chambaud, ouais.
Voilà, mais je voudrais vraiment débattre avec lui de cela, surtout s'il pouvait voir ce que ça a donné en vrai, ce qu'il proposait à l'époque.
Didier Bollecker, même question.
Ah, c'est difficile de répondre. En réalité, mon interlocuteur préféré, c'est l'usager. Nous avons la légitimité de 80% des Français qui utilisent la voiture dans leurs déplacements quotidiens. Je pense, on n'a pas évoqué le sujet de la voiture autonome, et ah oui. Je pense qu'entre la voiture autonome, la voiture à hydrogène et la voiture électrique, ce mode de transport a encore tout son avenir devant lui.
Olivier Archambault.
Alors moi, ça n'a pas grand-chose à voir. Moi, ce serait plutôt Gérard de Villiers, qui, vous savez, le fameux producteur, écrivain de SAS. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui...
SAS, donc littérature policière.
Oui, alors si on enlève les turpitudes de son héros, prince Malko, le fond est beaucoup plus important, puisque aujourd'hui, on manque d'éclairage géopolitique intelligent. Et il avait quand même l'extrême sensibilité de regarder les choses, de la géopolitique actuelle. Aujourd'hui, il nous manque beaucoup sur l'Iran, sur la Chine, etc., sur ces endroits du monde.
Mathieu Chassigné, même question.
Alors moi, j'ai choisi une femme, puisqu'on nous reproche souvent d'être entre hommes quand on discute d'un sujet technique.
Grosse présence masculine dans le studio aujourd'hui, mais c'était pas fait exprès.
Donc moi, je vais dire la jeune militante suédoise Greta Thunberg. Parce que voilà, j'admire son combat, puis la façon dont elle le porte, dont elle l'incarne et dont elle essaye de faire changer les choses en rencontrant les dirigeants de ce monde. Elle a été raillée quand elle est venue en France il y a quelques jours. Certains députés,
par le personnel politique, notamment.
Certains députés, de manière assez opportuniste, ont refusé de la rencontrer. Bah moi, c'est le contraire. J'aimerais bien la rencontrer et débattre avec elle.
Merci à tous les quatre et merci à l'équipe. Merci à Olivier, pas du tout, à Florent Bujon et à Nicolas Slimani qui étaient à la technique aujourd'hui et Lucie Lemarchand à la réalisation. Demain, le débat de midi se demandera si le rap a encore quelque chose à dire.